À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est beau chez Veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? vraiment je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées et tous ses lilas blancs.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente. C'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Et la bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Otis, on veut voir ça. On veut voir ça. Tu dis que tu es capable de soulever ce poids de 474 kilos. On veut voir ça.
Eh oui, mesdames et messieurs, moi, Otis, le grand Otis, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais le soulever, ce poids de 474 kilos, comme une plume. Ah, on y va. C'est lourd quand même, c'est lourd. Je transpire. J'abandonne.
Otis, ce vantard prétendait soulever ce poids comme un sac de plumes. Mais, à l'acte, aussitôt Otis sua et cala. À l'acte, aussitôt, Otis sua et cala.
Excuse me.
Eh bien moi, Otis, je vous le dis, je suis vexé après cette triste expérience. Eh bien pour me consoler, je vais aller voir mon ami Aziza au Sénégal. Ah, au moins là-bas, je serai bien reçu. Ah, oh, ben il fait chaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud ici aussi, hein? Oh ben je transpire, je sue abondamment, hein. Oh, ben vraiment, je reviendrai pas au Sénégal, hein?
Au Sénégal, ce mec-là, gêné, sua. Au Sénégal, ce mec-là, gêné, sua.
Bonjour à tous, Radio Libertaire, 89.4, à l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Bien sûr, en hommage à notre ami Gérard Durand. Là, j'ai repassé le palindrome du mois dernier. Mais bon, comme tous les palindromes sont tellement délicieux, ça vaut le coup de les réécouter. Bonjour Elsa.
Bonjour papa.
Ah, et oui, alors c'est en famille que nous faisons l'émission, la première émission de chaque mois, pour le bon ordre des auditeurs, j'espère. Voilà. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, nous allons vous lire des choses qui sont assez graves. Voilà. Je vais vous lire un grand texte sur ce qui se passe en Palestine, avec un sondage et tout. Et Elsa aussi vous parlera
du greenwashing décrypté, un rapport de Greenpeace.
Et j'aurai aussi juste une feuille pour vous parler de la qualité de l'eau. C'est un truc très court, mais ça vaut le coup quand même que vous l'écoutiez. Et vous aurez aussi un texte que ça vous lira, tiré du livre « Le pouvoir ».
Du pouvoir. Du pouvoir de Bertrand de Jouvenel. Un moment de réflexion.
Voilà. Donc, je vais commencer par les Palestiniens. Il y aura une pause musicale entre la moitié du texte. Ce que les Palestiniens pensent vraiment du Hamas. Avant la guerre, les dirigeants de Gaza étaient profondément impopulaires, mais la répression israélienne pourrait changer la donne. Depuis, les attaques atroces du Hamas le 7 octobre ont fait plus de 1400 morts israéliens en une seule journée. La réponse d'Israël a fait payer un lourd tribut à la population de Gaza. Selon le ministère de la Santé, les bombardements... Il y a un peu de l'arsène, on dirait... Selon le ministère de la Santé, les bombardements aériens israéliens ont fait déjà plus de 6 000 morts et plus de 17 000 blessés parmi les habitants de Gaza. Le nombre de victimes pourrait rapidement augmenter si Israël poursuit son invasion terrestre. Le président israélien Isaac Herzog, le premier ministre Monsieur Benjamin Netanyahou, l'horrible Benjamin, le membre de la Knesset, Ariel Kolner, et d'autres personnalités ont appelé à une campagne militaire couvrant l'ensemble du territoire de Gaza. Les missiles israéliens ont déjà détruit environ 500% de tous les bâtiments de Gaza, y compris dans les zones où les Palestiniens ont cherché à s'abriter pour avoir répondu aux appels israéliens à évacuer leurs maisons. Certains hauts responsables israéliens invoquent le succès du Hamas aux élections parlementaires palestiniennes de 2006. Ont en fait déclaré que tous les habitants de Gaza faisaient partie de l'armée du Hamas. Ils sont donc des cibles légitimes des représailles israéliennes. L'argument selon lequel l'ensemble de la population de Gaza peut être tenu responsable des actions du Hamas est rapidement discrédité lorsqu'on examine les faits. Le baromètre arabe, un réseau de recherche dont nous sommes les co-chercheurs principaux, a mené une enquête à Gaza et en Cisjordanie de quelques jours avant que la guerre entre Israël et le Hamas n'éclate. Les résultats publiés ici pour la première fois révèlent qu'au lieu de soutenir le Hamas, la grande majorité des habitants de Gaza ont été frustrés par la gouvernance inefficace du groupe armé, alors qu'ils endurent des difficultés économiques extrêmes. La plupart des habitants de Gaza ne se rallient pas non plus à l'idéologie du Hamas. Contrairement au Hamas, dont l'objectif est de détruire l'État israélien, la majorité des personnes interrogées sont favorables à une solution à deux États, avec une Palestine indépendante et un État d'Israël coexistant. La poursuite de la violence ne rapprochera pas l'avenir que la plupart des habitants de Gaza espèrent. Au lieu d'éradiquer la sympathie pour le terrorisme, les mesures de répression israélienne passées, qui ont rendu la vie des habitants de Gaza plus difficile, ont renforcé le soutien au Hamas. Si la campagne militaire actuelle à Gaza a un effet similaire sur l'opinion publique palestinienne, elle fera encore reculer la cause d'une paix à long terme. Une frustration croissante. L'enquête du baromètre arabe sur la Cisjordanie et Gaza, menée en partenariat avec le Palestinian Center for Policy and Survey Research et avec le soutien de la National Endowment for Democracy, donne un aperçu des opinions des citoyens ordinaires à la veille du conflit. Projet d'opinion publique le plus long et le plus complet de la région. Le baromètre arabe a mené 8 vagues d'enquêtes couvrant 16 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord depuis 2006. Toutes les enquêtes sont conçues pour être représentatives au niveau national. La plupart d'entre elles, y compris la dernière enquête en Cisjordanie et à Gaza, sont menées lors d'entretiens en face à face sur le lieu de résidence des personnes interrogées et les données collectées sont mises à la disposition du public. Dans chacune, les questions de l'enquête visent à mesurer les attitudes et les valeurs des personnes interrogées à propos d'une variété de questions économiques, politiques et internationales. Nos entretiens les plus récents ont été réalisés entre le 28 septembre et le 8 octobre auprès de 790 personnes en Cisjordanie et 399 à Gaza. Les entretiens de Gaza ont été achevés le 6 octobre. Les résultats de l'enquête révèlent que les habitants de Gaza ont très peu confiance dans leur gouvernement dirigé par le Hamas. Interrogés sur le degré de confiance qu'ils accordaient aux autorités du Hamas, une majorité de répondants, 44%, ont répondu qu'ils n'avaient pas du tout confiance. Pas beaucoup de confiance était la deuxième réponse la plus fréquente, avec 23%. Seuls 29% des habitants de Gaza ont exprimé une grande ou une assez grande confiance dans leur gouvernement. En outre, 72% ont déclaré que la corruption était importante, 34%, ou en moyenne 38% dans les institutions gouvernementales, et une minorité a estimé que le gouvernement prenait des mesures significatives pour s'attaquer au problème. Ils sont donc des cibles légitimes de représailles israéliennes. L'argument selon lequel l'ensemble de la population de Gaza peut être tenu responsable des actions du Hamas est rapidement discrédité lorsqu'on examine les faits. Le baromètre arabe, un réseau de recherche... Lorsqu'on leur a demandé comment ils voteraient si les élections présidentielles étaient organisées à Gaza, Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a été cité dans le bulletin de vote. Si on exclut Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et Marwan Barghouti, un membre emprisonné du comité central du Fatah, le parti dirigé par Abbas, seuls 24% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles voteraient pour Haniyeh. Barghouti a reçu la plus grande part du soutien avec 32% et Abbas a reçu 12%. 30% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne participeraient pas. L'opinion des habitants de Gaza sur l'autorité palestinienne qui gouverne la Cisjordanie n'est guère meilleure. Une légère majorité, 52%, pense que la paix est un fardeau pour le peuple palestinien. Et 67% aimeraient voir Abbas démissionner. Les habitants de Gaza sont délusionnés, non seulement par le Hamas, mais aussi par l'ensemble des dirigeants palestiniens. L'importance des problèmes économiques de Gaza est également apparue clairement dans les résultats de l'enquête. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté de Gaza est passé de 39% en 2011 à 59% en 2021. Pas mal, 20% en 10 ans. De nombreux habitants de Gaza ont eu du mal à se procurer les produits de première nécessité en raison de leur rareté et de leur coût. Parmi les personnes interrogées, 78% ont déclaré que la disponibilité de la nourriture était un problème modéré ou grave à Gaza, tandis que seulement 5% ont déclaré que ce n'était pas du tout un problème. Cherchez l'erreur. Une proportion similaire, 75%, a fait état de difficultés modérées à graves pour se procurer de la nourriture, même lorsqu'elle était disponible. Seuls 6% ont déclaré que l'accessibilité de la nourriture n'était pas un problème. Les ménages de Gaza ont fortement ressenti l'impact des pénuries alimentaires. 75% des personnes interrogées ont déclaré avoir manqué de nourriture et d'argent pour en acheter à un moment donné au cours des 30 derniers jours. À titre de comparaison, dans une enquête du baromètre arabe de 2021, seulement 51% des personnes interrogées ont déclaré la même chose. Ce changement survenu en seulement 2 ans est alarmant. Les habitants de Gaza ont été contraints d'adapter leurs habitudes pour tenter de joindre les deux bouts. 75 d'entre eux déclaraient avoir commencé à acheter des aliments moins préférés ou moins chers, et 69% déclarant avoir réduit la taille de leur repas. Alors, lorsqu'on leur a demandé comment ils voteraient si des élections présidentielles étaient organisées à Hamas, Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a été cité dans le bulletin de vote. Alors, il y a... Excusez-moi, il y a peut-être une page qui m'a manqué. Il y a un certain nombre de pourcents de personnes interrogées ont mis en cause la cause inanition. Seuls 16% d'entre eux ont mis en cause la sanction économique imposée de l'extérieur. En bref, les habitants de Gaza étaient peu enclins à attribuer leur situation matérielle aux dirigeants du Hamas qu'au blocus économique d'Israël. Toutefois, cette perception a pu changer depuis le moment de l'enquête. Israël a coupé l'approvisionnement en eau, en nourriture, en carburant et en électricité de Gaza à la suite des attaques du 7 octobre, plongeant le territoire noir dans une profonde crise humanitaire. Une partie de l'aide internationale est entrée à Gaza depuis lors, mais les souffrances endurées par les Palestiniens ont probablement durci leur attitude d'une manière qui pourrait compromettre la paix et la stabilité à long terme. Plus de politique comme d'habitude. Dans l'ensemble, les réponses de l'enquête indiquent que les habitants de Gaza souhaitent un changement politique. En baisse de 8 points depuis 2021, seulement 26% ont déclaré que le gouvernement était 3% ou très largement 23% réceptif aux besoins de la population. À la question de savoir quel est le moyen le plus efficace pour les citoyens ordinaires d'influencer le gouvernement, une majorité a répondu « rien n'est efficace ». La deuxième réponse, la plus populaire, était d'utiliser ses relations personnelles pour atteindre un représentant du gouvernement. La plupart des habitants de Gaza ne voient aucun moyen d'exprimer publiquement leur grief à l'égard du gouvernement dirigé par le Hamas. Seuls 40% d'entre eux ont déclaré que la liberté d'expression est une garantie dans une mesure importante ou modérée. Et 68% ont estimé que le droit de participer à une manifestation pacifique n'était pas protégé ou n'était protégé que dans une mesure limitée sous le régime du Hamas. La plupart des habitants de Gaza attribue le manque de nourriture à des problèmes internes plutôt qu'à des sanctions extérieures. Israël et l'Égypte imposent le blocus à Gaza depuis 2005, limitant l'entrée et la sortie des personnes et des marchandises sur le territoire. L'intensité du blocus a varié, mais il s'est considérablement durci après la prise de contrôle de Gaza par le Hamas en 2007. Néanmoins, une pluralité répondant à l'enquête, 31%, ont identifié la mauvaise gestion du gouvernement comme la cause principale de l'insécurité alimentaire à Gaza, et 26% des personnes interrogées ont déclaré que le blocus était la cause principale de l'insécurité alimentaire. Faire une petite pause musicale.
Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Quand va la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les filles du temps qui passe? Qui peut dire où sont les filles du temps passé? Quand va le temps des chansons se sont données aux garçons? Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les garçons du temps qui passe? Mais où sont tous les garçons du temps passé? Lorsque le tambour roula, se sont faits petits soldats. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Mais où vont tous les soldats du temps qui passe? Mais où sont tous les soldats du temps passé? Sont tombés dans les combats et couchés dessous leur croix. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Il est fait de tant de croix, le temps qui passe. Il est fait de tant de croix, le temps passé. Pauvre tombe de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tombes du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous jamais?
Vous avez écouté Marlène Dietrich dans le titre de cette belle chanson, Où vont les fleurs, qui correspond vraiment bien à ces temps de guerre. Environ la moitié des habitants de Gaza ont exprimé leur soutien à la démocratie. 48% ont affirmé que la démocratie est toujours préférable à tout autre type de gouvernement. une des plus petites proportions de personnes interrogées, 23%, a indiqué un manque de confiance dans tout type de régime, approuvant l'affirmation suivante : peu de gens comme moi, le type de gouvernement que nous n'avons pas d'importance. Seuls 26% sont d'accord pour dire, dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable. Ce dernier résultat est similaire au résultat d'un sondage réalisé aux États-Unis en 2022, où un adulte sur 5 âgé de 41 ans ou moins était d'accord avec l'affirmation suivante : la dictature peut être une bonne chose dans certaines circonstances. Ils sont complètement dingues, ces Américains. Étant donné la piètre opinion que la plupart des habitants de Gaza ont de leur gouvernement, il n'est pas surprenant, par leur désapprobation, que leur désapprobation s'étend de Hamas en tant que parti politique. Seuls 27% des personnes interrogées ont choisi le Hamas comme parti préféré, soit un peu moins que le Fatah, 30%. Le parti dirigé par Abbas et qui gouverne la Cisjordanie. La popularité du Hamas à Gaza a également baissé, passant de 34% dans l'enquête de 2021. Il existe également des variations démographiques notables dans les réponses suivantes récentes. 33% des adultes de moins de 30 ans ont exprimé leur soutien au Hamas contre 23% des 30 ans et plus. Les habitants de Gaza les plus pauvres sont moins enclins à soutenir le Hamas que leurs homologues plus aisés. Parmi ceux qui ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de base, seuls 25% sont favorables au parti du pouvoir. Parmi ceux qui eux peuvent, ces chiffres s'élèvent à 33%. Le fait que les personnes les plus touchées par les conditions économiques désastreuses et celles qui se souviennent de la vie avant le règne du Hamas sont plus susceptibles de rejeter le parti souligne les limites du soutien des habitants de Gaza au mouvement du Hamas. Des visions pour l'avenir. Le style de direction n'est pas la seule chose que les habitants de Gaza trouvent à redire au sujet du Hamas. Dans l'ensemble, les habitants du Gaza ne partagent pas l'objectif du Hamas d'éliminer l'État d'Israël. Lorsqu'on leur a présenté trois solutions possibles au conflit israélo-palestinien, ainsi qu'une option autre, la majorité des personnes interrogées, 54%, se sont prononcées en faveur de la solution à deux États décrite dans les accords d'Oslo de 1993. Dans ce scénario, l'État de Palestine côtoie l'État d'Israël, leur frontière étant basée sur les limites de facto qui existaient avant la guerre des six jours de 1967. Le niveau de soutien à cette résolution n'a pas beaucoup changé depuis 2021. Dans cette enquête, 58% des personnes interrogées à Gaza ont choisi la solution à deux États. Il est quelque peu surprenant de constater le peu d'intérêt que les arrangements politiques alternatifs ont suscité chez les habitants de Gaza avant le début des récentes hostilités, compte tenu du fait qu'une solution à deux États semble aujourd'hui peu plausible. L'enquête a présenté deux autres options, une confédération israélo-palestinienne, dans laquelle les deux États sont indépendants mais restent profondément liés et permettent à l'un et l'autre de s'unir. La libre circulation des citoyens et un État unique pour les Juifs et les Arabes les ont recueillis respectivement 10 et 9% de soutien. Dans l'ensemble, 73% des habitants de Gaza sont favorables à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien. À la veille de l'attaque du Hamas du 7 octobre, seuls 20% des habitants des Gaza étaient favorables à une solution militaire susceptible d'entraîner la destruction de l'État d'Israël. Une nette majorité, 77% de ceux qui ont donné cette réponse, étaient également partisans du Hamas, soit environ 15% de la population adulte. Parmi les autres personnes interrogées, favorables à une action armée, 13% ont déclaré ne pas avoir d'affiliation politique. L'opinion des habitants de Gaza sur la normalisation des relations entre les États arabes et Israël a toujours été négative. Seuls 10% d'entre eux ont exprimé leur approbation à cette initiative dans l'enquête la plus récente, soit le même pourcentage qu'en 2021. De nombreux habitants de Gaza reconnaissent probablement que la solidarité arabe est essentielle pour garantir un accord conclu, un accord politique incluant un État palestinien indépendant. Si les pays de l'UE doivent régler leurs différences avec Israël sans faire de la résolution du conflit israélo-palestinien une condition préalable à la normalisation, tout espoir persistant d'une solution à deux États s'évanouirait. Avant l'attaque du Hamas contre Israël, les opinions des habitants de Gaza en matière politique étrangère suggéraient à la fois un alignement sur certaines priorités de la politique américaine et une méfiance à l'égard des États-Unis. 71% se sont opposés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 37% ont exprimé le souhait que Gaza développe des liens économiques plus forts avec les États-Unis. Une proportion plus élevée que celle qui souhaitait approfondir les relations économiques avec l'Iran et la Russie, 32% dans les deux cas. Toutefois, 15% des habitants de Gaza estiment que la politique du président Joe Biden a été bonne ou très bonne pour le monde arabe. Au cours des dernières semaines, l'approbation de Joe Biden et des États-Unis a certainement diminué, étant donné la perception générale à Gaza et en Cisjordanie et dans les pays arabes de la région que Washington est venu en aide à Israël au détriment de Gaza. Une dernière constatation, confirmée par d'innombrables reportages sur l'angoisse des habitants de Gaza, contraints de quitter leur maison en raison de l'escalade de la violence, et la force du lien qui les unit, qui unit les gens à la terre sur laquelle ils vivent. La grande majorité des habitants de Gaza interrogés, 69%, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais envisagé de quitter leur patrie. Cette proportion est plus élevée que celle des résidents d'Irak, de Jordanie, du Liban, du Maroc, du Soudan, de la Tunisie, à qui l'on a posé la même question. Pour tous ces pays, les données disponibles les plus récentes proviennent de la vague d'enquête 2021-2022 du baromètre arabe. Les Gazaouis sont confrontés à une série de défis allant d'une crise économique qui s'aggrave à un gouvernement qui ne réagit pas et à un chemin apparemment impossible vers l'indépendance de l'État, mais ils sont inébranlables dans leur désir de rester à Gaza. Rompre le cycle. Les résultats de l'enquête du baromètre arabe brossent un tableau sombre de Gaza dans les jours qui ont précédé les attaques du 7 octobre. Le gouvernement du Hamas, incapable de répondre aux préoccupations vitales des citoyens, avait perdu la confiance de la population. Peu de Gazaouis soutenaient l'objectif du Hamas de détruire l'État d'Israël, ce qui laissait les dirigeants et la population de Gaza divisés quant à l'orientation future du conflit israélo-palestinien. La grande majorité des habitants de Gaza sont très favorables à une solution pacifique et aspirent à des dirigeants capables à la fois d'apporter une telle solution et d'améliorer la qualité de vie générale des habitants de la bande de Gaza. Jusqu'à présent, cependant, les politiques de leur propre gouvernement et du gouvernement israélien ont empêché tout progrès sur ces deux fronts. Les conditions de vie des Palestiniens sont meilleures en Cisjordanie qu'à Gaza, mais la situation économique et la politique restent sombres. Près de la moitié des personnes interrogées en Cisjordanie, 47%, ont déclaré avoir souffert de la faim au cours du dernier mois, et seulement 19 d'entre elles faisaient confiance au gouvernement de Cisjordanie, dirigé par le Fatah. Un pourcentage encore plus faible que celui des habitants de Gaza, qui faisaient confiance au gouvernement du Hamas. Le mécontentement à l'égard d'Abbas est particulièrement marqué dans une hypothétique élection présidentielle. Barghouti est leur premier choix, comme il est à Gaza, avec 35%, tandis que 11% seulement choisissent Haniyeh, le leader du Hamas, et 6% Abbas, le leader sortant en Cisjordanie. Près de la moitié des personnes interrogées, 47%, ont déclaré qu'elles ne participeraient pas. En ce qui concerne les attitudes à l'égard du processus de paix israélo-palestinien, le soutien à la solution des deux États en Cisjordanie était légèrement plus faible qu'à Gaza, 49% contre 54%, et l'opposition à la normalisation arabo-israélienne est légèrement plus forte. Seuls 5% des personnes interrogées en Cisjordanie approuve le rapprochement régional contre 10% des habitants de Gaza. Bien que la différence soit minime, ce durcissement relatif des attitudes en Cisjordanie est probablement le résultat des tensions entre les Palestiniens et les colons et les soldats israéliens au cours des derniers mois. La conclusion de l'enquête, selon environ la moitié des Palestiniens, soutiennent toujours la solution des deux États, peut offrir un certain espoir de paix à long terme. Mais les résultats n'inspirent pas beaucoup de confiance dans la stabilité à court terme. La profonde impopularité des dirigeants palestiniens, en particulier en Cisjordanie, remet en question la possibilité de rétablir le contrôle de l'autorité palestinienne sur Gaza, ce que certains médias ont suggéré comme la prochaine étape de la reconstruction après la fin de la campagne militaire d'Israël contre le Hamas. Avec l'escalade des opérations israéliennes à Gaza, la guerre fera des victimes insondables parmi les civils. Même si Israël parvenait à raser Gaza, comme le réclament certains politiciens américains, et ils veulent soutenir les Américains, ils sont fous, ils échoueraient dans sa mission d'éradiquer le Hamas. Nos recherches ont montré que la mesure de répression israélienne à Gaza a le plus souvent pour effet d'accroître le soutien et l'appui à la population et à l'appui de la population à l'égard du Hamas. Le Hamas a remporté 44,5% des suffrages des Palestiniens lors des élections législatives de 2006. Le Hamas a remporté 44,5% des voix. Pourtant, les échecs en matière de gouvernance ont poussé les Palestiniens de Cisjordanie à soutenir le Hamas. Lorsqu'on leur demande de quel parti ils se sentent les plus proches, seuls 17% des personnes interrogées en Cisjordanie déclarent soutenir le Hamas. Le Fatah bénéficie du même soutien qu'à Gaza, 30%. En ce qui concerne les dirigeants individuels, cependant, les réponses des résidents de Cisjordanie ont reflété une désaffection généralisée et un manque d'intérêt pour le Hamas. Au cours des années suivantes, alors qu'Israël renforçait son blocus à Gaza, les Gazaouis ordinaires ont ressenti les effets. L'approbation du Hamas a augmenté, atteignant environ 40% en 2010. Israël a partiellement allégé le blocus la même année et le soutien du Hamas à Gaza s'est stabilisé avant de retomber à 35% en 2014. Dans les périodes où Israël sévit à Gaza, l'idéologie dure du Hamas semble exercer un plus grand attrait sur les habitants de Gaza. Ainsi, au lieu de faire progresser les Israéliens et les Palestiniens, vers une solution pacifique, les politiques israéliennes ont infligé des souffrances à Gaza au nom de l'éradication du Hamas, sont susceptibles de perpétuer le cycle de la violence. Pour briser le cycle, le gouvernement israélien doit maintenant faire preuve de retenue. Le gouvernement dirigé par le Hamas n'est peut-être pas intéressé par la paix, mais les dirigeants politiques israéliens ont tort d'un point de vue empirique d'accuser tous les habitants de Gaza d'être dans le même état d'esprit. En fait, la plupart des habitants de Gaza sont ouverts à une solution permanente et pacifique au conflit israélo-palestinien. Pourtant, les opinions des habitants de Gaza sont encore souvent déformées dans le discours public, alors même que des enquêtes telles que le baromètre arabe montrent constamment à quel point ces récits sont différents de la réalité. Dans l'immédiat, les dirigeants israéliens et surtout américains doivent assurer la sécurité des civils à Gaza, dont 1,4 million ont déjà été déplacés. Les États-Unis doivent s'associer aux Nations Unies pour créer des corridors humanitaires et des zones protégées. Et Washington doit continuer à l'appel des Nations Unies pour une aide de 300 millions de dollars afin de protéger les civils palestiniens. Une mesure que des dizaines de sénateurs américains ont déclaré vouloir soutenir. Enfin, Israël et les États-Unis doivent reconnaître que le peuple palestinien est un partenaire essentiel dans la recherche d'un règlement politique durable et non un obstacle à cet objectif louable. Si les deux pays ne cherchent que des solutions militaires, ils pousseront probablement les habitants de Gaza dans les bras du Hamas, ce qui garantira un regain de violence dans les années à venir. Voilà. C'est très dur ce qui se passe là-bas. Et nous allons faire une petite pause musicale.
Allez les plaines, je m'en vais chantant de Provence en Aquitaine, de l'Est au couchant. Par les monts et par les plaines, pour mes compagnons, je chante mes joies, mes peines dedans mes chansons. Par les monts, par les plaines, je chante en français, dans ma langue maternelle, depuis que je suis né. Mon Dieu, que la France est belle, faut pas me l'abîmer.
Petit problème de platine. Bon, Elsa.
Construisant centrales, tout supermarché, le long de ma route longue, parfois en chemin. Une brune, une blonde, d'un geste de main, fais du stop et je m'arrête, j'aime mon prochain. Et plus encore, ma prochaine, elle me le rend bien. Par les monts et par les plaines, je m'en vais chantant. De Bretagne à la Lorraine, de l'Ouest au Levant. Sur des chemins sans péage, parallèlement, sur la route, je m'engage vers mes engagements. les plaines, je m'en vais chantant. Par les monts et par les plaines, je m'en vais chantant.
Excusez pour la qualité du son. C'est un concert de Christian Stalla au Trou Noir. C'était une cassette qui a été faite à l'époque et qui a été numérisée. Donc il y a le petit crachotis qui comme ça. Donc il y a eu des à la guitare, il y avait Jacques Ada et aussi Claude Gen qui a fait des guitares additionnelles sur l'enregistrement. Comme ça. Elsa, c'est toi.
Alors, voici le rapport écrit par Greenpeace, mis en ligne sur leur site internet au mois de septembre. Le greenwashing et décryptage. Qu'est-ce que le greenwashing ? Le greenwashing, parfois aussi appelée éco-blanchiment, est une stratégie marketing dangereuse pour la planète. Elle consiste, ni plus ni moins, à tromper les consommateurs et consommatrices sur le véritable impact environnemental d'une entreprise et de ses produits, en affichant une image plus responsable et plus soucieuse de l'environnement que ne l'est la réalité. L'objectif du greenwashing est donc de donner à une entreprise une façade écologique en mettant en avant une communication trompeuse. D'où ça vient ? Le terme « greenwashing » apparaît d'abord au début des années 1990 aux États-Unis, alors que les préoccupations environnementales gagnent du terrain. Au fil du temps, les enjeux du réchauffement climatique et des atteintes à la biodiversité deviennent prépondérantes et de plus en plus on souhaite consommer autrement. Certaines entreprises peu scrupuleuses voient alors un intérêt financier à verdir leur image. Et Greenpeace dans tout ça. En 2021, Greenpeace a lancé aux côtés de 30 autres organisations une initiative citoyenne européenne, ICE, afin d'interdire les publicités en faveur des industries fossiles. Comme cela a été fait pour le tabac nocif pour la santé, Greenpeace pense qu'il faut interdire la promotion des industries fossiles nocives pour l'environnement. Plus de 450 scientifiques se sont également joints à l'appel de Greenpeace. C'est la première fois qu'autant de scientifiques dénoncent le rôle des relations publiques et de la publicité dans la crise climatique. Exemple de greenwashing, les cas d'école. Même au sein du pire, il y a les meilleurs. Le rapport présente trois spécialistes du greenwashing pour illustrer leurs propos. Donc énergie fossile, le cas Total Energy. À partir de 2021, Total devient Total Energy. Ce changement de nom vise à faire oublier l'image d'une industrie polluante qui colle à la multinationale et à faire croire qu'elle va diversifier ses activités énergétiques au point de devenir, comme on peut le lire sur son site internet, un acteur majeur de la transition énergétique. Ce changement de nom s'accompagne donc de discours verts. Concrètement, la majorité de ces publicités se concentrent sur les énergies renouvelables, alors que plus de 90% de l'énergie qu'elles produisent provient des combustibles fossiles. L'engagement net zéro 2050, ou neutralité carbone, que Total Energy met en avant dans ses communications est un écran de fumée derrière lequel se cache l'entreprise pour continuer à polluer toujours plus la planète et à détruire le climat. En réalité, les objectifs climatiques annoncés ne permettent pas de tenir cet engagement, comme Greenpeace le décrit dans son assignation pour pratiques commerciales trompeuses déposée contre Total Energy le 2 mars 2022. Leur rapport bilan carbone de Total Energy, le compte n'y est pas, illustre par ailleurs la sous-estimation massive de ses émissions actuelles. Les chiffres ne mentent pas. En 2022, Total Energy consacrait environ 75% de ses investissements aux énergies fossiles, malgré son prétendu virage écologique. D'après leur enquête vidéo de 2020, l'emprise totale, le géant pétro-gazier produit 447 barils d'énergie fossile pour un baril d'énergie renouvelable. L'enquête vidéo se trouve sur YouTube. Tout comme l'industrie du tabac a pu nier les liens entre la cigarette et la santé, Total Energy tente de cacher l'impact de ses activités sur la santé et le climat. C'est un fait. 86% des émissions mondiales de CO2 proviennent de l'industrie fossile. Total Energy est l'un des plus gros et l'un des 20 plus gros pollueurs de la planète. Et Greenpeace dans tout ça. En mars 2022, Greenpeace France, notre affaire à tous et les amis de la Terre, France, ont assigné Total Energy en justice pour publicité mensongère. En mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé recevable le recours. Quelques semaines plus tard, Total a signé à son tour pour demander la suppression du rapport de Greenpeace sur son bilan carbone, une procédure bâillon pour tenter de museler les activistes du climat. Les rendez-vous au tribunal sont pris. L'association est prête. Les scientifiques aussi en ont assez du greenwashing. En 2022, pour la première fois, un rapport du GIEC, c'est-à-dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a dénoncé cette stratégie de désinformation en déclarant « Les acteurs qui dominent les débats dans les médias, ainsi que le degré d'ouverture de ces débats, varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction des moyens matériels et technologiques des acteurs. Les industries des énergies fossiles jouissent d'un accès unique aux médias grand public par le biais de publicités, façonnant ainsi les récits narratifs des articles et exerçant une influence politique dans des pays comme l'Australie et les États-Unis. » La même année, plus de 450 scientifiques ont signé une lettre appelant les agences de relations publiques et de publicité à cesser de travailler avec les entreprises du secteur des énergies fossiles et de diffuser de la désinformation sur le climat. C'est la première fois qu'autant de scientifiques dénoncent le rôle de la publicité dans l'aggravation de la crise climatique. L'accès à ces médias grand public leur garantit une notoriété qui leur permet ensuite d'obtenir des partenariats conséquents et une grande visibilité. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. Alors, une pause musicale s'impose avant d'enchaîner avec le cas Shine.
On leur fera bouffer de la merde depuis leurs plus tendres années. Ça formera leur goût de merde, plus tard ils s'en feront livrer. Ils auront le choix de la merde comme un parfum de liberté. Y'a tellement de gens dans la merde, faut bien nourrir l'humanité. Ah, 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 la voilà la jolie merde, en bar, en barquette, en sachet. De la merde élevée sous la merde, à poil la plume on bâtonnet. Les écolos, on les emmerde, ils dramatisent en vérité. Même la vérité, on l'emmerde, y'a que le profit en vérité. Ils feront des maladies de merde que nos labos pourront soigner. À coups de cachet, de cache-merde, l'idée c'est de les faire durer. Il ne faudrait pas qu'on les perde avant de les avoir saignés dans nos jolies épates de merde que l'on construira par milliers. Hey, 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 hey. À la voilà la jolie merde bien alignée devant la télé. Ils s'éteindront dans cette merde comme un mégot dans le cendrier. Lanceurs d'alerte, on vous emmerde, vous nous faites bien rigoler. Vous pouvez remuer la merde, on sait comment la recycler. À force d'avoir aux yeux de la merde, dans les oreilles, dans les trous de nez, diront que tout ce qui est pas de la merde, en vérité, eh ben, c'en est. En quittant cette vallée de merde, on leur vendra l'éternité. Mais c'est du pipeau que de la merde, car les dieux aussi sont mouillés. Ah 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 ah, la voilà la jolie merde, tant qu'il y a de la vie, faut l'exploiter. En tirer toujours plus de merde, ils n'auront pas fini d'en chier. Les complotistes, on les emmerde, sont tellement loin de la vérité. même la vérité, on l'emmerde. Y'a que le profit en vérité. Et même si on plonge dans la merde, on en aura bien profité. Et même si on plonge dans la merde, on en aura bien profité. On en aura bien profité. On en aura bien profité.
Eh oui, une petite chanson que je vous ai passée déjà là, il n'y a pas tellement longtemps, tirée du dernier album de Rémi Tarrier, Drôle de genre.
Eh ben, Monsieur Tarrier se lâche. Alors.
Comme toujours.
Oui. Alors. Fast fashion, le cas shine. Avec 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022, Shine est devenu le plus grand détaillant de mode en ligne au monde. Tout le monde a déjà entendu parler de ce fast fashion, mais ici c'est pire. On parle d'ultra fast fashion. Ces marques de l'ultra fast fashion sont une véritable catastrophe écologique. En produisant en masse et à très bas coût, grâce à une main-d'œuvre exploitée, elles incitent leurs clients, majoritairement situés dans l'hémisphère nord, à renouveler sans cesse leurs vêtements, pourtant en bon état. C'est l'idée d'obsolescence émotionnelle. L'usure physique ne représente que 35% des causes de fin de vie d'un vêtement. Elisabeth Ricketts, directrice de l'ONG OR Foundation, organisation caritative publique qui opère aux États-Unis et au Ghana depuis 2011 et qui travaille à l'intersection de la justice environnementale, de l'éducation et du développement de la mode, indique que 15 millions de vêtements de seconde main arrivent au Ghana chaque semaine, dont 40% sont des déchets. Les déchets textiles s'amoncellent dans des décharges à ciel ouvert qui se dispersent dans l'environnement. C'est d'autant plus révoltant que ces vêtements, après avoir été peu, voire pas utilisés, terminent souvent leur course sur le continent africain, qui fait office de poubelle de la mode jetable. La multinationale chinoise Shine va plus vite que n'importe quelle autre entreprise de la mode. En moyenne, elle met en ligne 7200 nouvelles références par jour, produisant ainsi une mode jetable. Alors que sa production détruit la planète et bafoue les droits des travailleuses et travailleurs, Shine continue de faire d'énormes profits. Pourtant, l'entreprise sait faire beau profil. Accusée de contribuer à faire du Ghana une poubelle à ciel ouvert de l'Occident, la marque chinoise essaye de faire amende honorable. En 2022, c'est le coup d'éclat. Lors d'une conférence internationale sur la durabilité de la mode, Shine annonce faire don de 15 millions d'euros à une ONG soucieuse des travailleurs et travailleuses des déchets textiles au Ghana. L'argent doit aider les entreprises de la communauté à recycler les déchets textiles et à améliorer les conditions de travail désastreuses. En faisant ce don, la marque avoue à demi-mot que certains de ses vêtements peuvent se retrouver là-bas. Cela aurait pu être le début d'une reprise en main de la part de Shine, mais tout ceci n'est qu'une façade. Aucun changement drastique de son modèle économique n'a ensuite été annoncé. Et face aux chiffres d'affaires de l'entreprise, cette somme est ridiculement faible, 0,05%. C'est ce qu'on appelle un éco-blanchiment en bonne et due forme. Sachant que sur Facebook, il y a des flashs publicités sur les vêtements Shine, on sait d'une part qui sont les clients qui commandent. Et Greenpeace dans tout ça. Entre 2011 et 2018, la campagne Detox My Fashion, menée par Greenpeace, a permis de grandes avancées vers une gestion rigoureuse des produits chimiques dangereux utilisés par les fabricants de textiles. 80 entreprises du secteur ont signé la charte Detox de Greenpeace et se sont engagées à réduire l'utilisation et le rejet de substances, de substances dangereuses et certaines marques de vêtements de plein air ont cessé d'avoir recours aux composés perfluorés, PFC, des produits chimiques dangereux et très volatiles. Des progrès conséquents. En novembre 2022, Greenpeace Allemagne a acheté 42 articles sur les sites web de Shine de 5 pays différents, puis les a envoyés dans un laboratoire indépendant pour être analysés. Le résultat est sans appel. En plus de violer les règles environnementales de l'Union européenne sur les produits chimiques, l'entreprise met en danger la santé des clients et des travailleurs. Côté consommation, le cas Coca-Cola. Est-il possible que la multinationale championne mondiale de la pollution plastique parraine un événement international pour le climat ? Malheureusement, oui. En 2022, Coca-Cola comptait parmi les sponsors officiels de la COP27, la 27e conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique. Parrainer un tel événement permet à l'entreprise de laisser entendre qu'elle se soucie du climat et qu'elle est activement engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques. En tant que consommateur, consommatrice, on a l'impression que la marque est soucieuse de l'environnement. Or, d'après le classement de l'ONG Break Free from Plastic, Coca-Cola est la marque qui génère le plus de déchets plastiques dans le monde. Coca-Cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetable par an et 99% du plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles, ce qui aggrave à la fois la crise de la pollution plastique et la crise climatique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le recyclage, c'est loin d'être la solution miracle. Seulement 9% du plastique produit à ce jour a été recyclé. De plus, le plastique ne disparaît jamais. Il restera toujours des microplastiques qui, à terme, se dispersent dans l'environnement et atteignent notre corps via l'eau ou les produits que nous consommons. La célèbre marque de soda préfère donc verdir son image en parrainant des conférences sur le climat plutôt que de faire face aux problèmes et changer son modèle économique de production. En tant que leader du secteur de l'alimentation et des boissons, Coca-Cola a les moyens et l'influence pour réaliser de réels changements. La multinationale devrait arrêter la production de plastique et se tourner vers une solution durable de remplissage et de réutilisation des bouteilles dans le cadre d'une véritable économie circulaire. Chaque année, entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. D'après les organismes de surveillance de la pollution des plages, les bouteilles sont l'un des types des déchets plastiques les plus fréquemment retrouvés sur nos rivages. Et Greenpeace dans tout ça. Alors en 2017, Greenpeace Royaume-Uni a publié un rapport révélant l'ampleur de la pollution plastique causée par Coca-Cola. Coca-Cola, la plus grande entreprise de boissons non alcoolisées au monde, a refusé de partager des informations clés pour l'enquête. C'est la seule entreprise consultée à ne pas avoir été transparente. Greenpeace a tout de même obtenu les informations à partir d'une série de sources, principalement des données et des informations accessibles au public, telles que leur rapport sur le développement durable. Le reste est le fruit de la recherche et de l'analyse de ces informations par Greenpeace. Alors, Coca-Cola produit plus de 3000 bouteilles en plastique à usage unique chaque seconde. Elle ne respecte pas ses objectifs de développement durable. Elle ne dispose pas d'un plan cohérent pour réduire la quantité de plastique qu'elle génère et qui finit sur les plages, dans les décharges à ciel ouvert et dans les mers. Une bouteille Coca-Cola trouvée dans la grande soupe de plastique du Pacifique. Il s'agit d'un mélange de plastique et de microplastique deux fois plus grand que le Texas, au milieu de l'océan Pacifique Nord. J'ai vu une photo, c'est effrayant. Alors, une pause musicale pour digérer tout ça.
Is that them? Zeteo, daylight come and me one go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me one go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
He's a day. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me one go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
Daylight come and me one go home.
Daylight come and me one go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me one go home.
Eh oui, une chanson de Harry Belafonte qui nous a quittés cette année. Il était vraiment très âgé.
95 ans, il me semble.
Oui, voilà.
En tout cas, 5 ans du centenaire.
Oui. Et l'année précédente, c'était son copain Sidney Poitier aussi qui est décédé.
Oui. Pratiquement la même tranche d'âge.
Oui, et à peu près la même maladie, tous les deux.
Oui. Voilà.
Donc, nous avons écouté une des chansons emblématiques de ce merveilleux album, Banana Boat Song, Day O. À toi, Elsa.
Pourquoi lutter contre le greenwashing? Vous l'avez compris, les marques poussent à la consommation en vous mentant. Et les conséquences pour notre planète sont terribles. Pollution de l'air, des rivières et des océans, etc. En réponse à la production grandissante de ces entreprises colossales, et pour espérer éviter l'emballement climatique, la solution a déjà été identifiée. En 2018, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a établi que pour contenir l'augmentation des températures en dessous de 1,5 degré centigrade, il faut que nous ayons atteint la neutralité carbone d'ici 2050. La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. Un puits de carbone est tout système qui absorbe plus de carbone qu'il n'en émet. Les principaux puits de carbone naturels sont le sol, les forêts et les océans. Tout cela dans l'objectif de limiter les événements climatiques extrêmes, comme la grande canicule qu'on a eue 2 étés de suite. L'été dernier et cet été. Les entreprises doivent faire leur part. L'impact écologique du greenwashing est indéniable. Il ne fait qu'aggraver la crise climatique en poussant à la consommation. Nous ne pouvons plus laisser libre cours à ces entreprises mensongères. 5 astuces pour repérer le greenwashing. 1. le site internet Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Sur son site, l'entreprise se vante d'être respectueuse de l'environnement, mais ne fournit aucune donnée sur ses chaînes de production. C'est souvent mauvais signe. Sinon, l'information serait facile à trouver. Deuxième astuce, le discours, la transparence est la clé. Si l'entreprise se décrit par des mots barbares et qu'un mot sur deux est en anglais, elle cherche probablement à vous perdre. Troisième astuce, l'étiquette. Plus c'est long, moins ça sent bon. Si la liste des composants est longue comme le bras, c'est louche. 4. Les couleurs. Le vert n'est pas une garantie écolo. Si le logo de l'entreprise est un petit arbre, mais qu'elle ne travaille pas dans le jardinage, on est en droit d'avoir des doutes. Regardez tout de même plus en détail, mais c'est déjà mal parti. Les labels, vrai ou faux ? En plus de mentir parfois sur l'obtention de certains labels, certaines marques peuvent oser mettre en avant des labels créés de toutes pièces, sans réelle valeur juridique. Parmi les labels écologiques de référence, on trouve AB, pour agriculture biologique, Nature et Progrès, ou encore Bioéquitable en France. Influence et prise de pouvoir, les risques du soft power. Nous vous avons présenté, Greenpeace a présenté, le greenwashing et certaines de ses utilisations, mais ce n'est pas la seule méthode que les entreprises polluantes utilisent pour maintenir leur emprise sur la société et embellir leur image. Il y a aussi tout ce qui relève du soft power que Total Energy connaît bien. Sport, éducation, science, culture, patrimoine. L'entreprise s'immisce en douceur dans différentes sphères de la société et dans les moindres détails de nos vies. Total Energy prend le pouvoir petit à petit et assure ainsi l'acceptabilité de son modèle économique et sa rentabilité. C'est ça le soft power. C'est une manière plus douce d'obtenir du pouvoir qui passe par le rayonnement culturel ou sociétal. Même s'il est silencieux, ce pouvoir n'en est pas moins imposant. Les entreprises qui l'utilisent ont la taille de se confronter à nos gouvernements. Leur stratégie consiste à développer des émotions et des sentiments positifs autour de leur marque. Elles mettent en place une stratégie du doute pour relativiser l'impact négatif de leur activité. La fondation d'entreprise de Total Energy est un outil au service du soft power. Via cette fondation, la multinationale choisit de financer des projets dans le but d'améliorer son image. Lorsqu'un scandale éclate, comme le traitement des personnes déplacées dans le cadre du projet ICOP, il s'agit du méga projet pétrolier de Total Energy en Ouganda et en Tanzanie. Ce visage de bienfaiteur vient peser dans la balance et mettre le doute dans l'opinion publique. Au bout du compte, Total, fin de se mettre au service de la société pour toujours mieux la manipuler. Cerise sur le gâteau, grâce à cette fondation, la multinationale peut réduire de ses impôts 60% de ses financements. En définitive, c'est le contribuable qui est perdant. Cette stratégie du soft power permet à l'entreprise de continuer ses activités climaticides sous couvert d'une bonne image. Les entreprises pétrolières et gazières, entre autres, se construisent une image vertueuse en parrainant des musées, en influençant la sphère de l'éducation via des investissements dans l'enseignement supérieur et en gagnant en popularité lorsque leurs logos sont associés au sport. Elles investissent beaucoup pour s'introduire dans notre quotidien et notre imaginaire collectif. C'est ce soft power qui leur permet ensuite de poursuivre leurs activités polluantes comme si de rien n'était. En s'insinuant dans notre vie quotidienne, elles s'autorisent à dissimuler leurs dégâts. Il devient urgent de chasser ces entreprises de notre tête et de notre quotidien. Alors, nous aussi, nous pouvons agir. Par exemple, agir au quotidien. La crise climatique est là. Et parfois, on peut se sentir impuissante et impuissant devant ces grandes entreprises. Pourtant, nous pouvons agir à notre échelle en commençant par des gestes quotidiens. Cela peut paraître dérisoire, une goutte d'eau, mais en changeant notre comportement de consommation, on montre tout simplement l'exemple à nos proches. Et c'est ça qui est important. C'est le béaba de la résistance. Si d'autres personnes suivent, alors on peut avoir la force de transformer notre société de consommation. C'est ensemble que nous aurons assez de poids pour faire changer ce système. Imaginez si tout le monde se mettait à consommer moins, mais mieux, tout en se tournant vers des entreprises plus respectueuses de l'environnement et transparentes sur leur manière de produire. Les mastodontes n'auraient d'autre choix que d'appliquer de gros changements. Par exemple, se tourner vers les artisans, vers la consommation en circuit court. Ça aussi, c'est un début de geste. Agir au quotidien contre le greenwashing, c'est prendre le temps de la réflexion avant de consommer. Décider de ne pas consommer si l'entreprise nous paraît louche, aller vers des entreprises respectueuses de l'environnement et de ses salariés. Dénoncer le greenwashing. Il vous reste encore une carte à jouer pour agir à votre échelle. Vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux des marques aux pratiques douteuses épinglées par des médias comme Bon Pote ou via certains hashtags comme hashtag balance ton greenwashing que l'on peut trouver sur Twitter. Il y a aussi le formulaire sur le site de Greenpeace. C'est le formulaire du site du jury de déontologie publicitaire. Donc, il vous suffit d'aller sur le site de Greenpeace. Vous notez site du jury de déontologie publicitaire sur le moteur de recherche. Là, vous trouvez le lien. Vous cliquez dessus, vous pouvez le remplir pour dénoncer justement une entreprise douteuse. Les associations aussi dénoncent. Le prix Pinocchio, organisé par les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne et l'Observatoire des Multinationales, est décerné chaque année aux entreprises affichant les plus grandes contradictions entre leur communication verte et la réalité de leurs actions. Ces entreprises sont tellement soucieuses de leur image que toutes nos actions peuvent s'avérer efficaces en contraignant les entreprises à faire évoluer leur communication vers plus de transparence. On peut même espérer que certaines changent leur manière de produire et de traiter leurs salariés. Les scientifiques sont clairs, nous devons empêcher le réchauffement climatique de dépasser la barre des 1,5 degrés centigrades si nous voulons éviter le pire. Les dons pour Greenpeace servent. Parce que ces dons vont pouvoir exiger que les responsables politiques et économiques prennent des mesures rapides et drastiques pour faire face à l'urgence climatique. Plus tôt vous faites votre don, plus tôt les acteurs de Greenpeace pourront les mettre à contribution. Alors Greenpeace est une organisation internationale qui agit selon les principes de non-violence pour protéger l'environnement et la biodiversité et promouvoir la paix. Donc elle est indépendante de tout pouvoir économique et politique et s'appuie sur un mouvement de citoyennes et citoyens engagés pour construire un monde durable et équitable.
Je vais rajouter juste une petite chose. L'eau en bouteille serait pire que l'eau du robinet. C'est dans la lettre Novea Santé de Jérôme Bouvier que vous pouvez trouver sur Internet. Dans les années 80, la France a pris conscience que les canalisations en plomb transportent l'eau potable et étaient dangereuses pour la santé. Aujourd'hui, la plupart de ces canalisations ont été remplacées par du plastique ou un autre élément. Mais on doit faire face à de nouvelles sources de pollution. Des pesticides, des résidus médicaments, des produits perfluoroalkylés, des PFAS, du biphénol A5 et d'autres choses. Du coup, beaucoup de Français ne boivent plus l'eau du robinet. À la place, ils achètent de l'eau en bouteille. Mais la qualité pourrait être pire que celle du robinet. En 2009, des chercheurs allemands ont mis en évidence, je cite, « une contamination généralisée de l'eau minérale par des perturbateurs endocriniens. Ces molécules qui possèdent à la fois une forte activité œstrogénique s'échappent du matériau d'emballage en plastique et se retrouvent dans l'eau de la bouteille. Et ce n'est pas tout. En 2022, l'association Agir pour l'environnement a fait analyser les eaux de bouteilles en plastique les plus vendues en France. Résultat, 78% des prélèvements contenaient des microplastiques. Et les quantités sont énormes. Si vous ne buvez que de l'eau en bouteille, alors vous ingurgitez moins de 5 grammes de plastique par semaine. C'est l'équivalent d'une carte de crédit. En 2011, la Fondation 3WF France a publié un rapport alarmant concernant la qualité de l'eau en bouteille. En effet, ils ont détecté la présence de 3 métaux lourds, du plomb, de l'antimoine, de l'aluminium. Les grandes marques d'eau semblent même les plus touchées. Bonjour pour... si vous donnez de l'eau d'évian, bonjour pour les enfants et pour les bébés quand vous faites des biberons. 2 ans plus tard, une enquête réalisée par 60 millions de consommateurs qui a révélé la présence de pesticides, de résidus de médicaments dans 10 bouteilles d'eau sur les 47 qui ont été analysées. Bilan des courses. Certaines eaux en bouteille seraient même plus polluées que l'eau du robinet. Merci, M. Bouvier, de ce petit...
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belles à votre propre désignée. Alto con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'il la saute, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort aux cons. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons! Halte aux cons!
Mort au con.
Alors, Nathalie Solens chante ses chansons samedi 4 novembre à 20h. Les chansons de son... Pardon, j'ai oublié de m'excuser. Ah, un chat, un gros chat dans la gorge. Que voilà. Alors, son dernier album, Comment te dire ? Claude Gann l'accompagne à la guitare. Alors, le concert s'effectuera à l'Anecdote Bistrot, petite restauration, qui se trouve au 237 rue de Bercy, à Paris dans le 12e. Alors, pour réserver, au téléphone 01 43 43 76 84, ou alors l'adresse e-mail. Alors, l'anecdote, tout attaché, point Bercy, avec un Y à la fin, @gmail.com. Et les métros pour accéder, au 237 rue de Bercy, c'est métro Gare de Lyon, ou Quai de la Rapée, ou Bastille. Venez nombreux, vous ne le regretterez pas. Et un petit moment de réflexion avec du pouvoir, les théories de la souveraineté, début du chapitre 2. Les théories qui ont été au cours de notre histoire les plus accréditées dans notre société occidentale et qui ont exercé le plus d'influence expliquent et justifient le commandement politique par sa cause efficiente. Ce sont les théories de la souveraineté. L'obéissance est un devoir parce qu'il existe et que nous sommes obligés de reconnaître un droit de commander en dernier ressort dans la société qui s'appelle souveraineté, droit de diriger les actions des membres de la société avec pouvoir de contraindre, droit auquel tous les particuliers sont obligés de se soumettre sans qu'aucun puisse résister. Citation de principe du droit politique, écrit par Burlamaqui, en 1751 à Amsterdam. Le pouvoir use de ce droit qui n'est pas généralement conçu comme lui appartenant. Non, ce droit qui transcende tous les droits particuliers, ce droit absolu et illimité ne saurait être la propriété d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Il suppose un titulaire assez auguste pour que nous nous laissions entièrement guider par lui, pour que nous ne puissions songer à marchander avec lui. Ce titulaire est Dieu, ou bien c'est la société. Nous le verrons, les systèmes qui passent pour les plus opposés, comme ceux du droit divin et de la souveraineté populaire, sont à la vérité branches d'un tronc commun, la notion de souveraineté, l'idée qu'il y a quelque part un droit auquel tous les autres cèdent. Derrière ce concept juridique, il n'est pas difficile de déceler un concept métaphysique. C'est qu'une volonté suprême ordonne et régit la communauté humaine, une volonté bonne par nature, et à quoi il serait coupable de s'opposer, volonté divine ou volonté générale. Du suprême souverain, Dieu ou la société, le pouvoir concret doit émaner, il doit incarner cette volonté. Dans la mesure où il réalise ses conditions, il est légitime. Et il peut, comme délégué ou mandataire, exercer le droit souverain. C'est ici que les systèmes, outre leur dualité quant à la nature du souverain, présentent une grande diversité. Comment, à qui et surtout dans quelle mesure sera communiqué le droit de commander? Par qui et comment l'exercice en sera-t-il surveillé, de façon que le mandataire ne trahisse pas l'intention du souverain? Quand pourra-t-on, à quel signe reconnaîtra-t-on que le pouvoir infidèle perd sa légitimité et que, ramené à l'état de simple fait, il ne peut plus arguer d'un droit transcendant? Nous ne pourrons pas entrer dans de si grands détails. Ce qui nous occupe ici, c'est l'influence psychologique de ces doctrines, la façon dont elles ont affecté les croyances humaines quant au pouvoir et par suite l'attitude humaine à l'égard du pouvoir. Finalement, l'étendue du pouvoir. Ont-elles discipliné le pouvoir en l'obligeant de rester soumis à une entité bienfaisante? L'ont-elles canalisé en instituant des moyens de contrôle capables de nécessiter sa fidélité? L'ont-elles limité en restreignant la part du droit souverain qu'il lui était permis d'exercer? Bien des auteurs de théories de la souveraineté ont eu l'un ou l'autre de ces desseins. Mais il n'est aucune d'elles qui, enfin, lentement ou rapidement détourné de son intention première, n'est renforcé le pouvoir en lui fournissant la puissante assistance d'un souverain invisible auquel il tendait et réussissait à s'identifier. La théorie de la souveraineté divine a conduit à la monarchie absolue. La théorie de la souveraineté populaire conduit à la souveraineté parlementaire d'abord et enfin à l'absolutisme plébiscitaire. Et je continuerai le mois prochain avec la suite, la souveraineté divine.
Merci Elsa. Donc là, nous allons terminer l'émission et je vais vous envoyer une émission enregistrée de jazz que Yves m'a envoyée parce que aujourd'hui, comme il vient de province, il n'est pas sûr d'arriver à l'heure. Donc, il m'a envoyé une émission que je vais vous diffuser maintenant. C'est pour ça que je ne vous passe pas le générique de Idistibis Passem. En vous remerciant d'avoir écouté nos textes un peu longs, mais très, très importants au niveau politique et au niveau environnemental. Voilà.
Oui.
Merci Elsa pour ces beaux textes.
Et merci à toi aussi, papa.
Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura peut-être Bernard qui vous présentera une émission. Voilà. Avec Pedro qui sera à ma place à la technique.
Entendu.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Et lâchez pas la patate.
Surtout pas.
C'est Jazz Libre sur Radio Libertaire 89.4. Et oui, nous avons bravé absolument tous les dangers, et il y en a beaucoup. D'abord la pluie, d'abord le froid, les rigueurs de l'hiver, bref, le fascisme ambiant. Et pour finir, évidemment, le virus. Mais nous sommes en direct en studio pour une session de Jazz Libre. C'est parti pour 2h30. Je vous rappelle, numéro de studio 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40. Vous pouvez, vous devez même nous aider à sauvegarder cette radio en téléchargeant la souscription ou en allant dans la journée avant 18h, hélas, à Publico pour souscrire et nous aider pour remplacer le matériel et maintenir nos émissions de qualité. Voilà. Alors, bien malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, nous devions normalement ce soir avoir un invité qui était prévu. Il s'agissait de Thierry Maillard, celui qui a fait un double album assez original en hommage à Frank Zappa. Nous avons conclu avec l'attaché de presse que c'était pas possible pour l'instant, et donc ce n'est que partie remise, en espérant que le pouvoir en place et celui des toubibs ne va pas nous reconfiner encore pour une troisième mi-temps qu'il serait plutôt très très malvenu eu égard à la faillite, je dirais, de la culture, de la musique en général et du jazz en particulier, où là vraiment nous sommes au fond du trou. Et donc, Radio Libertaire, nous essayons tant bien que mal de vous procurer un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur, voilà, 2h30 tous les 15 jours. Eh bien écoutez, ce sera toujours ça de prix. Alors, encore une fois,